Bonsoir, bonjour, on est au milieu de l'après-midi. Bon après-midi, merci d'être venus nombreux à cette conférence où on va parler du steampunk, genre très intéressant, très vivant en ce moment. Vous allez le voir, il y a plein de gens qui sont costumés façon steampunk un petit peu partout, notamment au premier rang. Vous pouvez pouvoir en discuter. Et pour en discuter, on a trois invités qui sont véritablement spécialistes du sujet. Le premier qui est juste à ma gauche, c'est Marc Attala. Marc Attala, il vient de prendre la direction de la Maison d'ailleurs. La Maison d'ailleurs qui se trouve à Yverdon-les-Bains en Suisse et qui est le seul musée européen de la science-fiction. On va parler aussi avec lui du steampunk et notamment de l'esthétique steampunk. Au milieu, nous avons la chance d'avoir Greg Brandmore. Greg Brandmore, il y a l'exposition en haut, il y a l'affiche. On va lui demander justement si c'est vraiment du steampunk ou pas. Il n'est pas forcément à l'aise avec le terme. On en discutera ensemble d'ici quelques instants. Et puis, au bout, Étienne Barrier qui a fait un ouvrage prénommé tout simplement Steampunk et il y a quelques mois et qui est notre spécialiste français, le plus grand spécialiste français du monde entier sur le genre et sur le steampunk. Voilà, comme ça, tu as un peu la pression, c'est bien. Une première question pour toi, Étienne. Historiquement, comment est-ce que naît ce genre? Comment naît le steampunk?
Le steampunk naît de la rencontre de trois amis californiens qui ont l'ambition de devenir des écrivains, mais qui n'ont pas encore réellement publié. Donc Tim Powers, K.W. Jeter et James Blaylock. Jeter a un plan de faire publier une série de romans uchroniques qui concernent des réincarnations du roi Arthur à travers le temps. Donc il donne le plan à ses copains, ils se mettent à écrire et comme bien souvent dans l'édition, ça tombe à l'eau. Donc nos jeunes écrivains, qui n'avaient pas signé de contrat d'ailleurs à l'époque, se retrouve avec des manuscrits sur le bras. Jeter parvient à faire publier son Morlock Knight, qui n'est pas traduit en français, qui est historiquement le premier roman steampunk. Et Tim Powers va reprendre son manuscrit, va prendre un autre manuscrit sur lequel il travaillait, et il va faire ce qu'on appelle un cut-up. Il va donc fusionner ses manuscrits, évacuant totalement le personnage de Arthur, et ça va donner les voix d'Anubis. Et à partir de là, commence toute une polémique dans le fandom américain. C'est qu'est-ce que sont ces fictions que ces bonhommes écrivent? Parce que le truc qu'il fallait faire à l'époque, c'était du cyberpunk, qui était vraiment le mouvement et l'esthétique forte des années 80. Et dans une lettre fameuse publiée dans le courrier des lecteurs du magazine Locus, Jeter écrit, ben voilà, nous ce qu'on fait, bah, c'est du steampunk. Donc le mot en lui-même n'a aucun sens, c'est juste un mot valise créé pour se moquer du terme cyberpunk. La seule traduction française qu'on pourrait trouver pour steampunk, ça serait quoi? Les voyous à vapeur, hein, les mauvais garçons à vapeur.
On est à peu près en quelle année là, historiquement?
Là, on est à la fin des années 80.
79, 78
Non, 80.
80, pardon, voilà. 88, pardon. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça va donner après? Polémique, ce terme est inventé. Est-ce qu'il va y avoir d'autres romans? Est-ce que ces trois auteurs eux-mêmes vont continuer dans cette veine?
On peut dire que le steampunk est mort trois fois. Ces trois auteurs créent leur fiction et ils arrêtent. Ils ne vont pas écrire d'autres romans steampunk. Il va y avoir un vide laissé par eux. Et le steampunk revient. D'autres auteurs vont publier à leur tour des romans. Et en 1990, on a par exemple La Machine à Différence de Sterling et Gibson, qui est le premier gros chef-d'œuvre steampunk. Le steampunk va mourir progressivement, faute d'être alimenté, hein, comme une chaudière qui n'a pas assez de combustible. Et au tournant des années 2000, il revient. Et là, il revient aussi bien dans différents pays, en France, c'est là qu'apparaissent les premiers romans de steampunk francophone, qu'aux États-Unis. Et depuis la dernière décennie, on a ce mouvement de croissance qui n'arrête pas.
Tu parles des premiers romans steampunk. À partir de quel moment le genre se balise? Est-ce qu'il y a un roman qui en impose un peu les règles dans lesquelles les autres auteurs vont évoluer ou éventuellement changer?
Si on prend Les Voix d'Anubis, il ne correspond en rien à toutes les caractéristiques du steampunk. Il ne se déroule pas à l'époque victorienne. C'est une histoire de science-fiction et de voyage dans le temps. Il y a de la magie avec des gitans égyptiens. Et pourtant, on est dans la fiction, on est dans l'uchronie, il y a tous les mécanismes esthétiques qui sont présents. À mon goût, c'est vraiment avec la machine à différence que se posent certains des thèmes propres au steampunk, comme le rapport à la machine ou l'idée d'une technologie rétrofuturiste inscrite dans le 19e.
Comment ça se passe en termes d'impact, tout du moins du genre, parce que j'imagine que ça a dû avoir quand même soit un gros succès, soit en tout cas un gros impact pour que d'autres auteurs aient envie de publier du steampunk et que des éditeurs parient sur le fait de publier des romans steampunk.
Sauf qu'il n'y a pas de collection dédiée au steampunk. On a des collections de fantasy, on a des collections de bitlit. Dans toutes les librairies généralistes, il y a un rayon bitlit. Mais on ne trouve pas de rayon steampunk, si ce n'est si le libraire est un fou furieux qui veut mettre en évidence les livres. Le steampunk est traditionnellement publié dans des collections de science-fiction. Il y a juste l'éditeur Eclipse qui a sorti un roman marquant steampunk sur la tranche. Et en 99, l'anthologiste steampunk francophone de Daniel Rich, qui portait un magnifique steampunk en couverture.
C'est une espèce d'exception littéraire, un cas particulier, des livres qui ne disent pas leur nom.
Des livres qui ne disent pas leur nom, mais parce que je crois que c'est un problème lié aux circonstances commerciales, parce qu'il faut que l'éditeur éduque les représentants pour que le représentant qui ira voir le libraire aille lui expliquer. Alors ça, on appelle ça du steampunk parce que c'est ça, voilà. Je crois que les choses vont se faciliter à mesure que le lectorat ou que les gens intéressés vont se développer et que le terme va devenir de plus en plus connu, hein. Ce qui est en voie d'être accompli. Hein.
Une petite question sur son succès, puisque on voit qu'aujourd'hui il y a une espèce de résurgence, une troisième naissance, c'est ce que tu disais. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement le succès du steampunk?
Je crois que un des succès du steampunk, et là il faudra que nous en parlions, c'est que c'est un genre qui n'a pas de doctrine fixe. Chaque artiste peut tirer le steampunk à soi et d'une certaine façon le réinventer, se l'approprier totalement. Il n'y a pas de dogme. Par contre, on peut faire de la musique steampunk, on peut faire de l'art plastique steampunk. On peut faire du jeu de rôle steampunk. Donc il y a beaucoup de communautés différentes qui ont pu s'approprier le genre sans qu'il y ait la nécessité de passer soit par la littérature, soit par d'autres formes qui donneraient les codes de base. Le steampunk se comprend spontanément. Quand je vois cette image-là, je la comprends immédiatement. Je suis sûr que les Nantais qui la voient actuellement en ville comprennent de suite de quoi il s'agit. Même s'ils n'ont jamais lu de science-fiction, jamais lu de fantasy, jamais lu de steampunk.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'esthétique qui lie un petit peu ces différentes communautés?
Mieux qu'une esthétique, une culture, vraiment au sens le plus large possible. Comme si le steampunk puisait dans une culture collective que nous partagerons tous, même si on n'en a pas conscience.
D'accord. Alors justement, on parle d'esthétique et je voulais en discuter un petit peu avec Marc Attala. Comment définir cette esthétique steampunk dans l'histoire de la science-fiction?
Bon, je ne sais pas si on peut vraiment définir l'esthétique steampunk. Ce qu'on peut dire, c'est ce que Étienne disait tout à l'heure, ça veut dire que c'est un mouvement qui vient un peu comme une sorte de farce, en tout cas dans sa dénomination, une sorte de farce à l'encontre du cyberpunk. Et effectivement, les auteurs steampunk du départ disaient que les auteurs cyberpunk se prenaient un peu trop au sérieux et qu'ils oubliaient le caractère ludique de l'imaginaire. Il s'avère que c'est pas forcément très intéressant. On se rappelle que Thomas More, par exemple, quand il écrit l'Utopie, la dédicace à Erasme, elle lui dit « Ouais, c'est une petite farce que j'ai écrit, tu vas beaucoup t'amuser en lisant cette petite chose, et puis on sait le destin et la tradition de l'utopie après ça. Donc finalement, l'origine même n'est pas très intéressante, à mon sens du moins, parce qu'elle nous indique une anecdote et pas forcément la suite, qui est beaucoup plus intéressante, le fait que c'était récupéré, c'était alimenté, c'était monté en une certaine forme de culture, en tout cas une esthétique globale, qui se décline dans plusieurs types de médias. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Étienne par rapport à la définition, c'est l'idée qu'on reconnaît tous quelque chose. C'est-à-dire que quand on est face à une œuvre de steampunk, on y reconnaît des éléments, soit qui viennent d'une culture très particulière, qu'on connaît bien, donc on y reconnaît plus d'éléments, mais même si on n'y reconnaît pas plus d'éléments, en tout cas, on voit un certain style. On n'a qu'à voir, effectivement, la fiche de Greg, et on... Alors les Nantais reconnaissent Nantes, mais reconnaissent Nantes dans une certaine esthétique, et cette esthétique, ils la reconnaissent aussi, ou en tout cas, elle s'identifie aussi comme quelque chose d'un peu passé à cause des tons utilisés, etc. Donc je crois que c'est un mouvement qui est pratique dans le sens où tout le monde y reconnaît quelque chose. Et puis après, le décalage peut être interprété plus facilement en fonction de ses propres connaissances ou de sa sensibilité, mais en tout cas, on se rend compte que c'est quelque chose qui est entre deux mondes, entre guillemets, au sens très large du terme. C'est entre quelque chose qu'on connaît puis quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais en même temps, entre quelque chose qui est passé puis quelque chose qui est futuriste, ou en tout cas qui est un certain type de futur, et qui fait un futur démodé. Hein. C'est Stéphane Halleux qui disait ça. Il disait, le steampunk, pour moi, c'est du futur démodé. Et ça, on le ressent, même si on ne sait pas forcément que c'est du steampunk, parce que de nouveau, la catégorie, elle marche pour les... Pour les gens comme nous qui avons besoin de catégories, mais pour la plupart des gens, c'est pas important de savoir que c'est du steampunk ou pas du steampunk. L'important, c'est de reconnaître quelque chose. Et c'est là où l'esthétique est intéressante. Quand on reconnaît quelque chose, qu'on l'appelle steampunk ou pas, finalement, c'est peu important.
Comment se construit cette esthétique? Il y a des grands artistes qui ont un petit peu matérialisé, visuellement parlant, le steampunk au cours de son histoire. Étienne ou Marc? Marc?
Alors, en tout cas, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y a deux artistes qu'on expose ou qu'on a exposé à la maison d'ailleurs qui font du steampunk. J'aime pas trop les approches historiques par rapport au monde de l'art, elles sont assez compliquées, mais en tout cas, Greg, qui est pas à l'aise avec le steampunk, le mot steampunk, parce que je comprends qu'on soit pas à l'aise avec un mot quand on fait quelque chose, puis on vous dit, ah, tout ce que vous venez de dire, c'est un mot. Bon. Il y a peu de gens qui diraient, ah ouais, c'est vrai, en fait, c'est cool, je suis un steampunk mania. Donc, l'idée de pouvoir dépasser les frontières me paraît intéressant. Et puis Stéphane Halleux, qu'on expose aussi actuellement à la maison d'ailleurs, c'est cette idée d'avoir des imaginaires qu'on reconnaît. J'ai envie de dire plutôt comme ça, voilà. Quand on voit quelque chose qui est familier et en même temps étrange, qui est passé et en même temps futuriste, on est dans, alors on va dire uchronie, steampunk, rétrofutur, et puis je laisse aux spécialistes le soin de faire la distinction entre ces grands genres-là, qui s'interfèrent, qui sont en fait trois manières de parler de trois choses relativement similaires mais néanmoins un peu différentes. Mais en tout cas, on reconnaît quelque chose. Et pour moi, c'est plus... cette impression, cette émotion qui peut être produite par une œuvre qui m'importe en tant que directeur de musée, que finalement, le label qu'on veut lui coller. Nous, par exemple, au musée, on ne met pas steampunk. On le met dans les textes, comme dans les salles que personne ne lit, mais sur les affiches, on ne met pas steampunk parce qu'on n'a pas envie de ça. On veut parler de l'œuvre, de l'artiste. Et je pense que le rôle des critiques, c'est d'arriver justement à englober ça dans des catégories. Et je trouve ça important. Mais dans le monde de l'art, donc dans le monde des artistes, je comprends qu'on soit mal à l'aise avec ces mêmes catégories-là qui finalement ne sont pas très importantes. Dans un travail de création, on ne dit pas « je vais faire du steampunk ». Ou alors c'est qu'on est déjà complètement aliéné par une catégorie.
Alors justement, on va poser la question à Greg Wandmore sur ces questions d'étiquette et de label. Comment est-ce que lui définit son travail et dans quel cadre il travaille justement ?
Yeah, good question. Oh, is it working? Is that one working? Oh, that's better. I don't think too much in specifics of genre. When I created Dr. Grootboots, it was just inspired by, you know, many things from history. It's actually a grab bag of, you know, Jules Verne, H.G. Wells, War of the Worlds, and then Flash Gordon, and, you know, the pulps. I've just looked at all the different things that I love, and I just aggregate them together. And I leave out the stuff that doesn't work, that it doesn't tell the message that I want, and I gather all the things that I like. It's very much that simple. So I've never thought of it in terms of a genre. I mean, of course, in a broad sense, it's probably science fiction, but I don't even think that's a good term for it in general. You know, it's just imagination. It's just something other than what's real, you know, which is what excites us all. I think we all, and science fiction happens to be something that I connect with because it's of the technology, and I love technology. I'm fascinated by technology, so I would say it's. When I'm working, I don't think in terms of it needs to be science fiction or it needs to be steampunk or something like that. It just is what it is. I just pick, you know, as an author and a creator, I just pick the things that I like. And when you're making a world, you want to make it holistic. It wants to kind of make sense. So I set it in a time, and I set it in a have a certain editorial choice of elements that give it a whole, if you like. So and.
Quelles sont un petit peu vos influences? Vous dites que vous récupérez des éléments. Y a-t-il des artistes particuliers avec lesquels vous vous inspirez?
What is your influence? Is there any artists that you are inspired by?
Yeah, there are so many artists that I'm inspired by all the time. I mean, I just met an artist yesterday, Alexis, from a French artist, who's whose incredible work I've just discovered this book. I'm discovering new artists all the time. That's, you know, I'm a very visual person, and I see stuff out on the internet, or when I'm visiting here, it's been inspirational seeing Le Machine. It's like, that's a sort of, like nothing else on the planet, and so that's very inspirational. Well, but inspiration is a strange thing, right? Like, that inspiration doesn't mean I will try and make something like it. Like I'm not interested in mimicking other people's works, but it makes you want to do more. And what makes you want to create something as interesting and in depth as what these other artists have created. And when I grew up, I was very much into English and French comics, like 2000 AD and Metal Hurlant. And so those inspired me very, very much. And then as an adult, it's been N.C. Wyeth, Howard Pyle, Schoonover, Harvey Dunn, the artists from the American turn of the last century, who basically did essentially the thing I love, which is telling adventure stories. They did Robinson Crusoe and pirates and, you know, knights in armor. Essentially the fantastical fiction of its time, even though most of that was historical, it's the same thing. It's like a exploration into the unknown, you know, and that's what I've always been interested in fiction.
Est-ce que vous avez néanmoins l'impression de vous inscrire par vos dessins, vos illustrations, dans un mouvement, dans quelque chose comme ça qui se continue?
Yeah, I'm not sure. Is that a question? I suppose the answer is yes. Yeah. I don't have much more to say about that. I think it is. I mean, you're always the sum of your influences, your experiences, and as an artist or as any person making anything, you know, you just output what you receive, and you just spit it out in your own way. And so my work is a product of history, very much. Yeah.
Étienne, justement, parlons de l'évolution du steampunk. Comment le steampunk en tant que genre a évolué dans les romans? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés ou des ajouts au fur et à mesure par rapport au premier?
Bonne question. Il y a eu trois évolutions, on peut dire. Une première évolution qui serait la fixation de certaines constantes qui font qu'on peut, et ça commence à se voir notamment dans la production américaine, avoir des romans de gare steampunk. C'est-à-dire où toutes les figures obligées sont présentes. Voilà, donc on vend du steampunk maintenant pré-mâché. Deuxième évolution, ça a été quand même la naissance de steampunk, mais cette fois au pluriel, des steampunks. Donc du steampunk français, du steampunk allemand, du steampunk italien, où cette fois le genre est fusionné avec une culture particulière. Avoir le regard d'un Américain sur l'Angleterre, c'est pas la même chose que si c'est le regard d'un Anglais. Avoir le regard d'un Anglais sur la France, c'est pas la même chose si c'est un Français. Et cette culture-là s'exprime. Donc ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y ait tout un phénomène de traduction et que toutes ces fictions différentes circulent. Et la troisième évolution, c'est surtout une évolution en termes d'audace. C'est-à-dire que ben, chacun s'est emparé de la pierre qui était au milieu du chemin. Cette pierre, on l'appelle steampunk, et il l'a prise et il l'a amenée 3 mètres plus loin. Et en racontant des histoires, en osant raconter des histoires telles qu'on ne racontait plus, c'est-à-dire de la grande aventure, du récit épique, trépidant, du mystère, et de retrouver un simple plaisir du texte que bien d'autres fictions peut-être négligées, simplement parce que la science-fiction devenait trop sérieuse ou la fantasy devenait trop répétitive. Donc pour des auteurs, ça donne la possibilité je vais faire un roman steampunk, je vais me faire plaisir.
Tu parles d'une résurgence, d'une renaissance au début des années 2000 et notamment en France. Elle est due à quoi ? Elle est due justement aux autres genres ? Elle renaît par rapport aux autres genres qui sont peut-être plus sérieux ? Ou est-ce qu'il y a des causes ou des conséquences du coup qui permettent cette renaissance ?
Pour mon travail, j'avais regardé les livres de l'époque et notamment les critiques qui paraissaient dans les magazines. Et tout le monde disait que le steampunk allait être le gros truc à venir. Et il y avait un investissement de certains éditeurs pour sortir et faire du steampunk. Le gros truc à venir n'est pas venu. On l'attend toujours. Hein. C'est toujours toute une série de vaguelettes. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a quelques excellents romans qui sont sortis. Je pense notamment à Jean Héliot avec son premier roman publié, La Lune Seule le sait, qui en un seul livre définit le steampunk français, ou en tout cas ouvre la voie vers ce que le steampunk français pourrait être. Personnellement, enfin en tant que fan, j'aurais qu'une seule envie, ce serait qu'un auteur me fasse des Brigades du Tigre steampunk. Là, ce serait formidable. Mais je pense que le meilleur est à venir.
Le steampunk comme la science, on dit souvent que la science-fiction se nourrit un petit peu d'elle-même. C'est la même chose pour le steampunk, c'est le même processus ?
Oui, parce que les auteurs se connaissent, se lisent. Il y a toute une communauté d'esprit, tout en ayant une foultitude de contre-exemples. Gray en est un bon, qui ne connaissait pas le steampunk. Quand Jean Héliot écrit La Lune Seule le sait, il n'a jamais entendu parler du mot steampunk. Et ce n'est qu'une fois le livre publié qu'on lui dit « Tiens, tu as fait du steampunk ». Et lui, voilà. Donc je crois qu'il y a beaucoup de monde à qui ça va encore arriver jusqu'à ce que le mot steampunk ait mûri assez pour être connu et que des gens consciemment fassent la démarche.
Greg Brandmore, vous ne connaissiez pas le mot steampunk avant d'attaquer cette série de Dr. Gorbort ?
I didn't know that it was what I was doing. I had heard of steampunk, but only very no. Yeah, I'd heard of cyberpunk, and then there's all these other terms. So I'd heard of various things like that, but I was not aware that that's what I was doing. And because for me, I thought when I heard of steampunk, I thought, oh, it's kind of Victorian. It's steam technology. It's as if the Industrial Revolution continued from that point, just getting grander and grander, but not actually fundamentally changing the technology. Whereas what I was doing was taking sort of the age of rocketry and the age of radio waves, and you know, understanding the splitting the atom, and you know, the age of atomics. It's ray guns, you know. So I wasn't aware that terminology would be applied to this. So. But to me, I mean, a genre is just way of, it's an easy way of aggregating things together. But like I say, I never think of it that way. I make music as well, and when I make music, it's kind of, I suppose it's easy to call it punk, but that is to simplify it, because it's got elements of metal, and it has elements of jazz, and it has, you know, so I understand the need for genres, but I very seldom use them. So I never think in those terms. So when I heard of it, I was like, ah. And my actual original reaction was like, or to recoil a little bit, like, no, I'm not doing that. But I mean, it's not for me to decide. Evidently, I just do what I do, and other people can call it what they call it. You know.
Marc, toi qui as hébergé notamment cette exposition à la maison d'ailleurs, quelle a été un peu la réaction du public, maison d'ailleurs, maison de science-fiction, expo plus ou moins steampunk, comment ça s'est passé ? Ça a été bien accueilli ?
Alors oui, c'était bien accueilli, avec plusieurs types de réactions différentes selon le degré en fait de connaissance de ce genre d'œuvre. Peut-être que ce qui est le plus intéressant, c'est pour les gens qui ne connaissaient pas du tout cette esthétique. Ce qui est intéressant, c'est cette espèce de, déjà un étonnement. Et pour moi, le but de l'art, il est d'abord d'étonner, sinon ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai de la peine avec les catégories, parce qu'on n'étonne plus dans une catégorie. Donc les gens étaient étonnés, ils ne comprenaient pas très bien. Alors à la fois, ils apprenaient à lire, en fait, d'une certaine manière, l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils voyaient des choses qu'ils avaient déjà vues. Alors le côté colonial, le côté impérialiste, le côté rapport à des peuples indigènes, le rapport aussi à l'ironie. Donc des cadres qu'ils connaissaient déjà. Hein, on voit bien que le steampunk n'emprunte pas que dans la science-fiction, mais aussi dans des cadres de discours traditionnels. On comprend l'ironie, qu'elle soit steampunk, normale, enfin... Donc voilà, et avec cette espèce de mix, il fallait faire quelque chose. Alors après, les gens sont contents de pouvoir s'appuyer sur un nom. Ah tiens, c'est du steampunk, j'ai compris ce que c'était. Mais finalement, ce qui est intéressant quand on travaille dans un musée, c'est pas tellement de pouvoir avoir ça, parce que quand vous avez un mot en tête, le risque c'est que vous occultiez la réalité, c'est-à-dire que vous voulez voir du steampunk n'importe où. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'inverse. C'est quand on sait pas le mot, alors on essaie de décrire. Et puis là, il émerge un peu des choses étonnantes où on voit des comparatifs qui se créent, qui auraient jamais été possibles. Si on était, ah bah c'est du steampunk, c'est bon, et j'ai pas besoin donc de lire le truc. Et donc ça, c'était assez intéressant de voir l'effort qui devait être produit, qui n'était pas tout le temps, mais qui était assez fréquemment là, de comment donner du sens, voilà, comment je donne du sens. Et le mot, il est là normalement pour donner du sens, pour déjà effectuer ce travail qui a été effectué par d'autres, en fait. Mais finalement, c'est pas très intéressant. Moi, j'aime bien quand les gens, ils sont là, puis ils savent pas trop quoi faire avec le truc, et il faut qu'ils y aillent, et puis après, il y a un côté déceptif quand vous savez ce que c'est le steampunk. Après, vous dites, ah, c'est du steampunk. Ah, ben, moi, je trouve ça décevant. Ça veut dire que si c'est facile à catégoriser, c'est que c'est pas intéressant. C'est pas complexe, en fait. Et indépendamment de la qualité de l'œuvre, hein, je dis bien ça. Donc, j'aime bien la posture de Greg qui est de dire, je fais quelque chose, c'est moi, c'est ce que je fais moi. Puis après, quand on me dit que c'est du steampunk, on veut tant mieux. Si ça fait du bien aux autres, tant mieux. Moi, de toute façon, ça va pas changer ma production. Et je pense que c'est plutôt ce rapport-là qui est intéressant. C'est comment est-ce que j'interagis avec l'œuvre? Et si je suis pas capable d'être face à une œuvre, je peux la catégoriser complètement, pour moi, ça m'intéresse pas.
Et qu'est-ce qui a plus plu aux gens? Est-ce que vous avez réussi à identifier? Est-ce que ce sont plutôt les tableaux de presque de guerre ou de bataille, plutôt les portraits, plutôt les armes? Parce que Greg Brandmorf est spécialisé un peu, non pas dans les armes, mais dans les dessins d'armes un petit peu compliqués. Est-ce que vous avez réussi à savoir ce qui vraiment avait le plus marqué les visiteurs?
Je pense que c'est une réponse facile. C'est un peu le tout, ça veut dire... Par exemple, dans les portraits, vous verrez, il y a un des portraits où il y a un personnage qui ressemble à un reporter du 19e siècle, un peu à la Tintin, avec un espèce de chapeau comme ça. Alors il y a des gens qui étaient frappés par les portraits en disant comment on peut faire ces portraits, puis en même temps faire des armes dans la salle d'à côté. Alors ici, tout est à la même place, donc c'est peut-être. Mais les gens, au musée, ils gravitent de salle en salle, donc ils ne voyaient pas les portraits à côté des armes. Et donc ils disaient, tiens, c'est marrant, au début on a ça, puis après on a ça. Et c'était aussi une des grandes sources d'étonnement, c'est-à-dire la diversité de l'imaginaire. Depuis le portrait jusqu'à une sorte de paysage, en passant par des armes, par des dessins aussi qui n'avaient rien à voir, enfin des productions qui n'étaient pas directement liées à l'univers du Dr. Gorbort, mais plutôt à l'univers de Greg. Et c'était face à cette espèce de côté global que c'était assez problématique. Ça veut dire comment rattacher tout ça? Alors heureusement, il y avait la BD qui était déjà là au musée, et donc les gens souvent aussi pouvaient aller puiser dans la BD pour se dire « Ah ben j'aurais une BD, donc j'aurais du narratif », puis ils se rendaient compte, pas de bol, que même la BD, c'était pas que du narratif, et donc il y allait quand même quelque chose qui allait résister et qui allait les obliger, entre guillemets, ou qui allait pousser à investir l'œuvre de leur propre subjectivité, et ça pour moi, c'était vraiment ce qui avait de plus intéressant.
Une petite question, Étienne, sur le steampunk. On a dit qu'il y avait une renaissance en 2000. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des romans encore régulièrement steampunk? Quels sont les gros succès? Quels sont les auteurs à suivre?
Je dirais qu'une des choses, les steampunk les plus intéressantes que j'ai lues, mais qui n'est pas un roman, c'est la bande dessinée de Brian Talbot, Granville. Granville et Granville, mon amour. Qui se déroule dans un Paris steampunk avec une enquête menée par un flic britannique, sauf que tous les personnages sont des animaux, donc il fait une fiction animalière, et là il s'inscrit dans toute une tradition qui remonte très très loin, et c'est tout simplement sublime.
Est-ce qu'on a les raisons un petit peu? On a l'impression en ce moment, tout le moins c'est une impression, que le steampunk marche, fonctionne plutôt pas mal, tout du moins commercialement parlant, ou tout du moins en termes d'esthétique. Hein, quand, c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas des gens déguisés en steampunk. Est-ce qu'on peut expliquer les raisons? Est-ce que ça s'explique? On leur demandera après, hein, mais globalement, tout à l'heure, avant la conférence, on parlait par exemple du lien avec la culture gothique ou des choses comme ça.
Je crois que le costume steampunk a deux grandes caractéristiques. D'une part, quelqu'un qui veut faire du cosplay ou qui veut se déguiser, qui a envie d'eux, s'il se déguise en Star Trek, Star Wars ou Naruto, il prend un personnage préexistant. Tandis que c'est quelqu'un qui veut utiliser un costume steampunk va créer son propre personnage, parfois même lui créer une biographie, tout ça dans un mouvement très proche du jeu de rôle. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a tout un travail artisanal de travail de la matière, du cuir, de la ferronnerie, qui pour certains touche presque à l'œuvre d'art. Qui demande une acquisition de connaissances, soit en matière d'effets spéciaux si on veut faire des prothèses, soit en matière de dextérité manuelle pour pouvoir découper et coudre du cuir.
Ça, c'est pour c'était le côté esthétique. En termes de littérature, qu'est-ce qui explique que les gens lisent du steampunk?
Déjà parce que le marché n'est pas encore saturé par les romans steampunk, donc ça paraît régulièrement, donc ça c'est toujours rafraîchissant. En plus en France, comme s'il y a un filtre opéré par la traduction, on a un peu le haut du panier qui arrive jusqu'à nous. À mon goût, en tant que lecteur, le plaisir de lire du steampunk, c'est le plaisir de l'émerveillement, de l'aventure, de l'aventure extraordinaire. Je vais passer un excellent moment et avec un authentique plaisir de lecture, de lecteur, ce qui voilà, est extrêmement rafraîchissant, hein, surtout qu'on commence à être un peu ancien comme moi et qu'on a beaucoup lu. Et donc il y a on parlait hier de plaisir lié à la jeunesse, de retrouver un enchantement.
Et en même temps, on a l'impression que parfois les auteurs font un roman steampunk, mais qu'après ils font complètement autre chose. On aurait du mal à identifier un auteur français, par exemple, qui fasse régulièrement du steampunk. On pense à Johann Elliott, mais Johann Elliott, il y a une trilogie et il a fait beaucoup d'autres choses. Est-ce que ça s'explique, ça? C'est juste une récréation et après il passe à de la science-fiction ou de la fantasy?
Je pense que c'est une forme. Donc on s'essaye à cette forme ou on l'adopte sans s'en rendre compte. Et où on se dit, tiens, moi je ferais ça comme ça. Il y a quelques auteurs anglo-saxons qui sont dans des séries typiquement steampunk. Il est possible qu'en France, ça apparaisse. Ça pourrait donner des choses particulières, notamment au niveau du travail sur le développement d'un monde. Parce que là, on a vraiment des one-shots qui restent concentrés surtout sur du narratif pur. Et non pas sur la constitution d'un univers.
Marc, un petit peu même question pour toi. Qu'est-ce qui explique le succès littéraire, entre guillemets, du steampunk?
Moi, je ne sais pas. Mais je ne sais pas dans le sens qu'à mon avis, il y a énormément de facteurs. Et aujourd'hui, quand on parle de succès littéraire, on doit toujours penser aussi en termes de rapport à l'édition, de rapport au à l'innovation, de rapport à tout ce qui se passe. Je suis d'accord avec... Alors, pour ne pas redire ce qu'a dit Étienne, parce que je suis assez d'accord sur le rapport à l'enfance, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les expositions où on retrouve des choses de... Peut-être pas de l'enfance au sens péjoratif, mais au sens... On retrouve l'émerveillement de pouvoir concilier un peu des choses comme ça, un peu hétéroclites, mais qui ne posent pas de problème. Quand on est enfant, on n'a pas le problème de systématicité qu'on peut avoir plus tard. Donc ça, je suis sûr... Il y a peut-être aussi cette pour donner un truc un peu alors, très extrême, j'en sais strictement rien, donc je sais un peu une sorte d'hypothèse bizarre comme ça, mais j'ai l'impression qu'on vit aussi dans un monde où l'importance de la fiction pour notre propre vie est très importante, et donc on est toujours en train de se fictionnaliser. Facebook, c'est une manière de se fictionnaliser à travers, etc. Et donc peut-être que le steampunk est aussi une manière de se jouer, hein. Quand on lit un livre, on parle pas souvent de narration, mais quand on lit un livre, on prend la posture du héros et puis on suit le héros. Et puis si le héros c'est un flic un peu loubard du polar, c'est pas la même chose que si le héros c'est un grand héros de la littérature populaire, etc. Donc en suivant aussi un héros fictionnel, on devient nous-mêmes une sorte de deuxième degré comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée, d'où le fait que le déguisement fait beaucoup partie de la culture steampunk, c'est qu'il y a cette idée de se fictionnaliser et donc de pouvoir changer d'identité, jouer d'identité. Ce qu'on fait par ailleurs dans d'autres canaux, mais ce qu'on peut aussi faire par ce genre d'esthétique. Et dans la science-fiction, effectivement, dès qu'elle commence à devenir autoréférentielle, hein, elle parle d'elle-même, on met en scène les propres figures, les propres héros, on rentre peut-être dans une dimension très fictionnelle, très postmoderne, comme ça, qui ne m'étonnerait pas, où on est vraiment dans quelque chose qui n'a que comme intention de se divertir, à travers des cadres fictionnels que tout le monde connaît, avec aucune autre vraiment ambition sérieuse, etc., même si ce n'est pas le cas, mais... C'est souvent présenté comme tel. Voilà, ça soit une sorte d'hypothèse un peu peut-être extrême, mais j'aime bien cette idée que c'est de la fiction pure, en fait. Et il me semble qu'on passe notre temps à dire que le monde un peu plus sérieux, lui aussi, est une fiction pure. Donc on aurait une sorte de connivence entre les deux. Mais pour moi, c'est quand même clairement un effet de mode, au sens que c'est un effet qui touche plusieurs strates. Et pas pour dire que c'est péjoratif, mais on est dans quelque chose qui marche bien dans l'air du temps aussi. Et c'est pas pour rien que ça arrive dans les années 90, où on est déjà dans la postmodernité et littéraire, et cinématographique, et aussi philosophique.
Et pourquoi ça marche justement aujourd'hui par rapport à l'air du temps
d'aujourd'hui ? Parce qu'on y est toujours.
Complètement. Greg Brownmore, vous êtes étonné des réactions par rapport à vos illustrations, à vos univers ?
My surprise? In what context? How do you mean?
Est-ce que ça vous pose... Est-ce que vous êtes surpris de l'écho que ça a mondial, et est-ce que c'est ça qui vous pousse aussi à continuer?
I mean, no, maybe. Good question. Am I surprised that it connected with people? Nope. Yes and no. Every time any artist make anything, I suppose you're delighted is the, probably the right word when other people connect with it and can read into it and start to want to, you know, participate in it. So surprised? No, I'm delighted. Like, yeah, I'm happy when that happens. And that's a complex question because it happens for every work of art. You put some work of art out there, some of it connects with people and some it doesn't. So it's also usually more surprising when it doesn't connect with people and you go, wonder why, you know, and start to read into it in that respect. But with something like this, I had no idea whether people would like it or not, whether it would make a kind of connection. And I think probably that there was this steampunk movement coming up that probably helped it to some degree. I think, and if you're talking about this question of why people are enjoying it, and I think it's, to me, it's very simple. I mean, as someone who's come to it, who has steampunk has found them, if you like, I see it as loving like things that are simple and older and idealized. Like we all look back at the past as a simpler time, a time where things are idealized. And the past is not simpler. The past is just as complex as now. You know, the world is infinitely complex and it always will be. But in our mind's eye, history always looks a bit simpler, you know. We start to admit facts and histories are told by the victors. And if you look back at our Victorian era of history, it seems somehow nice. Like, the costumes are beautiful. People love the idea that it's slightly more dignified and they can be a dapper gentleman, you know. They can be a buxom, you know, princess or whatever, you know. They can be the corsets, everything. I mean, it's all lush and beautiful and takes you back to a sort of fairy tale world, except the advantage of something like steampunk, it seems to be, is that it's enabled by technology as well. It's not the world that it just was. It has all the trappings of, you know, beautiful history, but then all the is unleashed by imagination. You can fly in an airship that, you know, that real airships would not have been able to do what the airships of steampunk do. You know, you have this gentleman here with this amazing mechanical arm with the lights on it, and it harkens to an era of history that we think probably happened, but there's so much more going on. Yeah, you should show off your costume, man.
Allez-y, montez sur scène qu'on vous voit bien.
So to me, it's very self-evident. You just, I see these costumes, I think, of course you want to dress like that. It looks amazing. It looks like a hero from a world that you think happened but didn't. Very nice work, by the way.
La classe, quand même. Hein. Merci beaucoup.
We all love, you know, as we've talked about, we all love science fiction. Science fiction now is very self-referential. I don't know if it was back in the day. I'm really not sure. I'm not that clever. But, you know, now we love to see things that are familiar but then have something new to them, you know. And that's what steampunk probably represents, is the ability to take a familiar past that we think is more idealized in some way but send it on a different journey, on a different tangent. I think that's fun for anyone. So, yeah.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir capté quelque chose de l'air du temps, comme disait Marc?
Of, you mean of the of steampunk or of the history that it's from?
Par rapport simplement à votre travail à vous et qui rencontre ce succès-là.
With this current time, our time, I hope so. I mean, it has to because I'm making it now. So I only comment, you know, on things on the world that I know about. So, I mean, while, you know, Dr. Grodbord and Lord Coxswain are these... Dr. Grodbord is essentially a businessman expanding his empire across the planet in a massive monopoly. And Lord Coxswain is basically George Bush with a machine gun. You know, he's Rambo meets George Bush together. It's so, you know, there's nothing new there. I'm just taking, you know, things that I see... You know, these sort of characters there have existed as long as humans have existed, and so I'm just picking the ones that I think are fascinating and playing with them like toys.
Il nous reste 10 bonnes minutes. On peut passer aux questions. Est-ce que quelqu'un, on a dit beaucoup de choses hein, sur le steampunk. Est-ce que quelqu'un a une question, monsieur là? Oh, on reviendra. Ah bah, comme vous préférez. Si on peut monter un tout petit peu le micro invité.
Ouais, ok. Ouais, vous avez beaucoup parlé du steampunk en tant que genre. Moi, je voyais plus en tant que style. Alors, la nuance est peut-être pas très grande. Mais le steampunk, pour moi, c'est un petit peu la différence entre un plat et la sauce qui l'accompagne. C'est-à-dire, une sauce, je peux la mettre sur différentes choses et ça accompagne bien et différemment certains plats. Tandis que, un plat de pâtes, ça reste un plat de pâtes, quoi. Même si je peux en avoir des différentes. Je veux savoir si c'est cette nuance-là, vous la voyez.
Alors, plutôt sauce ou plutôt pâte?
J'ai intitulé mon livre Steampunk, l'esthétique, rétro-futur. Donc, vous appelez ça sauce, j'appelle ça esthétique. Ce ne sont que des mots. Hein.
Ouais, ou gorgonzola, si vous voulez.
I would say to that, by the way, it's dressing. It's sure, it is. It's like any of these stories, I think, this could have taken place 1,000 years ago. Or, you know, on a galaxy far, far away. You know, it just doesn't matter. The wherever the fictional world is, that is dressing. It's what's important are the actual themes. You know, the what's the story being told? You know, what are the metaphors? What's the content? And it could be in any time. You know, this I can only talk for my own work, but I know Grodbord's could be set in 100 years. You know, could be a same type of person going to further reaching planets. You know. Or it could be in a fantastical world where he is conquering other cultures. You know, it is basically dressing. You're exactly right. I think you hit the nail on the head.
Une autre question.
En 99, l'anthologie Futur Antérieur est sortie en proposant différentes visions du steampunk. Est-ce que vous pensez qu'on s'est enfermé dans une vision au détriment d'autres visions qui auraient pu être possibles?
L'anthologie en elle-même n'a pas été un immense succès, notamment parce qu'il y a eu, il y avait des textes qui étaient écrits par des auteurs qui se forçaient un petit peu, qui ont fait un peu à la manière d'eux. Je pense que là où cette anthologie est brillante, c'est qu'elle a une préface qui est très claire et très riche. Mais elle, je suis d'accord, elle cherchait à définir et à expliquer au grand public quelque chose. Donc c'est en ce sens que la tentative était intéressante. Un travail d'éducation.
Marc,
peut-être. C'est intéressant parce que je pense effectivement qu'on n'est pas enfermé. Enfin, je ne sais pas qui c'est. Mais disons, les auteurs de steampunk ne sont pas enfermés là-dedans. Ou alors ils le veulent. Hein. C'est quand même l'avantage quand on écrit quelque chose qui existe, c'est qu'on peut aussi rester enfermé dedans à dessein. Et je crois que le steampunk n'est fermé qu'à condition qu'il le souhaite, tout comme les autres genres d'ailleurs. C'est pas une question de steampunk ou pas steampunk. Comme toute anthologie, c'est quoi, un choix d'une quinzaine de textes, d'un moment assez particulier, la fin du 20e, où on réinvente aussi un peu les cadres avec lesquels on perçoit la science-fiction. Et donc, comme le steampunk, c'est ce procédé un peu... Donc dès que vous récupérez des choses et puis vous proposez une nouvelle sauce. Donc moi j'aimerais bien sortir du spaghetti et la sauce bolognaise. Je pense que ça dépend le point de vue. On peut autant faire des pâtes que de la sauce. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce procédé où on récupère. Et donc tant qu'on récupère des choses qui existent et qu'on fait rien de plus, alors on est enfermé. Mais si on récupère et puis qu'on propose quelque chose de plus... Et ça, c'est la créativité de l'auteur, en fait, ou de l'illustrateur ou autre. Alors là, on n'enferme plus le steampunk. Et c'est pour ça que le steampunk, comme les autres genres, évolue pas très vite, parce que heureusement, il n'y a pas des créateurs tous les jours.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? Allez-y, monsieur là-bas.
Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question au niveau de l'esthétique steampunk. Il y a un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup qui s'appelle Boulet, Gilles Roussel son vrai nom, qui avait fait pour se moquer aussi, parce qu'il fait pas mal de trucs steampunk, il avait fait l'équivalent steampunk, mais pour les années 1970-1980, c'était le Formica Punk. Vous, est-ce que ça vous semble possible de trouver une époque aussi charismatique que la révolution industrielle, mais plus proche de nous pour faire un nouveau mouvement, quelque chose punk?
Le diesel punk qui est en train de prendre dont le nom commence à prendre un peu racine, et il remplace le rétrofutur, ce qu'on appelait avant rétrofutur. Voilà, c'est donc le diesel punk qui regrouperait tout ce qui se centre autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois qu'il faut que nous vieillissons tous pour avoir une nostalgie suffisante et un regard distancié qui permettra de créer des choses à la fois sexy, sympa et amusante.
Je crois qu'on voit bien le problème dans votre question, que je trouve très intéressante, du nom. Oui, quand vous faites des études de littérature, vous apprenez des grands genres comme ça, puis vous n'allez pas trop dans le détail. En science-fiction, pour une raison qui m'a toujours échappé, on a absolument cherché à détailler le thème. Alors on est très emmerdé, parce que moi je peux très bien écrire aujourd'hui du récit steampunk sur le cyberpunk, puis on va l'appeler comment? Et donc en fait on a une sorte de multiplication de noms qui veulent rien dire. Pourquoi? Parce qu'on a un procédé simple qui est de dire: je mets en scène un imaginaire passé. Et puis je le mets de telle manière que je le mets pas en scène n'importe où, je le mets dans le même passé qui est censé l'avoir mis en scène. Et donc je fais ce procédé qui existe depuis l'Antiquité, et puis je l'appelle à chaque fois différemment. Et à mon avis, c'est un peu de la glorification de l'ego pour qui trouve le meilleur mot. À mon avis, c'est des procédés qui sont ultra ancrés historiquement, qui existent depuis très très longtemps, et je pense que c'est pas très intéressant de les appeler. Par contre, effectivement, de prendre l'esthétique cyberpunk, de faire du cyberpunk dans des mondes cyberpunk qui les mettent à distance, alors on peut l'appeler du steam cyberpunk... ou alors du je sais pas comment. Et en fait, on est en train de parler du mot, alors qu'effectivement, c'est ce que je disais par rapport au créateur. En fait, créez ça, et puis rassurez-vous, il y a plein de gens qui vont essayer d'y mettre un mot, mais fondamentalement, là, vous aurez redonné un peu vie au steampunk.
Donc vous avez compris, vous êtes aux utopunk, en fait. Une autre question.
Moi, je voulais juste savoir, aujourd'hui, on voit notamment dans les magasins de vêtements beaucoup de collections dites steampunk, c'est-à-dire ça devient presque du steampunk commercial. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle vague, justement, très marketing du steampunk ?
Je vais faire une analogie. Il y a 10 ans, une jeune fille qui s'habillait en gothique aurait fait crier sa grand-mère. Maintenant, sa grand-mère va aller lui acheter une tenue un peu gothique au supermarché. Donc, je crois que toutes les entreprises de mode payent des gens qui sont payés pour sentir l'air du temps. Des espèces de scouts qui sont en train de chercher ce qui se fait, et voilà. Oui, Justin Bieber a fait une séance de photos steampunk.
Vous faites hurler vos grands-mères? Non. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, monsieur, un premier.
Vu qu'on parle un petit peu de l'air du temps, et puis tout à l'heure vous parliez de la condition de la postmodernité en ce moment, moi je voudrais savoir si on ne pourrait pas plutôt parler d'hypermodernité. Et est-ce que le steampunk, justement, il ne serait pas un petit peu réactionnaire par rapport à ça? Parce qu'on parle de mode, est-ce que justement le steampunk, c'est pas justement le début à l'époque où on croyait encore au progrès, où on ne pensait pas qu'avoir plein d'objets chez soi ne nous apporterait pas autant de bonheur que ce qu'on pouvait penser au 19e siècle?
Bon,
vous parlez de postmodernité et d'hypermodernité, c'est des concepts qui ont été développés par Gilles Lipovetsky. Lipovetsky s'est excusé d'avoir parlé d'hypermodernité en disant qu'il avait foiré et qu'en fait, il fallait qu'il revienne à la postmodernité. Donc je pense que Lipovetsky lui-même répondrait à votre question comme ça, puisque dans son livre Les temps hypermodernes, après il s'est excusé, il disait ouais, j'ai un peu merdé, j'aurais pas dû écrire ça, etc. Donc non, je pense qu'on est dans la postmodernité autant dans un système où on devient autoréférentiel. Ça veut dire où finalement la mort du progrès comme idéologie maximale de l'Occident, enfin comme méta-récit, en fait, où on se dirige tous ensemble vers le bonheur de demain, on l'a un peu moins. Je sais pas vraiment si on l'a un peu moins, mais en tout cas, c'est ce qui est dit comme ça, qu'on l'a un peu moins. Et donc finalement, ce qui reste, c'est de pouvoir interroger nos propres imaginaires. Donc, à mon avis, le steampunk reste vraiment dans la postmodernité. Il est pas beaucoup plus... ce serait une sorte d'analogue à ce qu'on pourrait avoir dans l'art contemporain où on réinspecte l'art du 20e la postmodernité en art en fait architectural par exemple ou pictural. Donc je pense qu'on est vraiment à peu près dans la même chose. Y a pas la distinction qui était faite entre postmodernité et hypermodernité, c'est que l'homme postmoderne il est content d'avoir pas de sens, et puis l'homme hypermoderne il commence à être un peu déprimé. Donc après je pense qu'on a autant de steampunk déprimé que de steampunk pas déprimé. Donc c'est je pense vraiment qu'on est dans une littérature moderne, postmoderne, qui se réfléchit elle-même, et la science-fiction étant plutôt la source de ça, comme d'autres littératures avant l'ont été avant, parce que la science-fiction commence à avoir beaucoup de bagages, en fait, beaucoup de matériaux pour pouvoir commencer à les réfléchir à l'aune de notre propre existence aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Une dernière question.
Oui, alors j'espère qu'on n'a pas déjà abordé le sujet parce que je suis arrivé un petit peu tard. Mais je me pose la question, est-ce qu'à posteriori, on ne pourrait pas voir, j'aurais tendance à dire, Voyage au centre de la Terre comme l'acte fondateur du steampunk, même si à l'époque, finalement, c'était de la science-fiction?
Parlons de Jules Verne. Étienne.
Tout vient de Verne en France, Wells en Angleterre, Edgar Poe aux États-Unis. On a les trois auteurs qui sont les trois pieds de la fiction de genre moderne. Hein.
C'est intéressant que vous parliez de Verne, parce que je lisais dernièrement un roman peu connu qui s'appelle Sans dessus dessous. Et dans Sans dessus dessous, il fait référence, à un moment il dit ils doivent aller inverser les pôles magnétiques. Bon, c'est un peu la Verne comme ça. Alors il dit il y a déjà un type qui a réussi à se balader par-dessus les pôles, c'est Robur, qui a été évoqué, mais paraît-il que c'est de la fiction. Et donc cette espèce de procédé où dans le sans dessus dessous, Jules Verne met en scène un héros qui vient de sa propre production comme un héros fictionnel pour dire que le nouveau héros n'est pas fictionnel. Donc, mais ça, vous le trouvez chez Racine aussi. Et puis vous le trouvez chez Ovid aussi. Donc je pense que si on prend vraiment le genre de la science-fiction, c'est-à-dire le steampunk comme une sorte d'affiliation de l'Uchronie et de la SF, alors oui, Jules Verne est un des premiers, parce que c'est aussi un des premiers qui a fait de la SF. Mais d'un autre côté, quand Mary Shelley écrit Frankenstein, elle fait référence à la tradition du golem et autre tradition des créatures artificielles dans la littérature antique. Et finalement, c'est limpide pour un lecteur du début du 19e siècle qu'elle fait référence à ça. Donc il voit le golem et il voit la récupération d'un imaginaire.
Voilà, on arrive à la fin de cette heure. Hein, ça a été assez dense. Un petit mot pour vous dire que les gens déguisés participent notamment au site steampunk.fr. Je l'ai bien dit. Voilà. D'accord. Ucronews.fr. Enfin, bon, allez les voir, hein, profitez-en. On va remercier nos invités, il y a une séance de dédicace et tout de suite, si vous restez ici, autre thématique très importante, l'homme augmenté de la numérisation à la mémoire éternelle, tout un programme. Merci à vous.